Tu y as pêché baobab acajou.
Dur de la feuille.
Baobab acajou. Tu y as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron cyprès, pin tes landes palissandres. Mes lèzes tremblent être noyés.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 9 décembre 2025. Publication du rapport annuel du WWF sur l'état de la biodiversité. Quel est le but de ce rapport annuel? Que nous apprend-il sur les êtres vivants de notre planète, animaux et plantes? Parallèlement, quelles sont les décisions prises ces derniers jours et pouvant potentiellement avoir une incidence sur la biodiversité? Le WWF France publie tous les ans un rapport sur l'état de la biodiversité en France afin d'aider les décideurs à acter une meilleure politique publique et informer l'ensemble des citoyens. Pour la première fois, un focus détaillé permet de mesurer l'évolution d'espèces protégées et d'évaluer l'efficacité des actions menées. Alors que la France possède une biodiversité parmi les plus riches au monde, le pays voit le vivant reculer. Dans les champs, les zones humides, les forêts, comme dans les océans, le constat est sévère. 70% des haies détruites, 50% des zones humides disparues, des forêts trop jeunes, des océans surexploités. Le déclin de ces milieux affecte de nombreuses espèces autrefois communes. Le moineau, friqué, a perdu 90% de ses effectifs, le brochet 30% et le dauphin 21%. Cela impacte également des espèces emblématiques comme le grand tétras ou le lynx boréal, dont les populations restent très fragiles. La seconde partie du rapport est dédiée aux actions réalisées et à leurs effets sur les populations visées. Ainsi, lorsqu'une espèce est protégée et que des moyens techniques, humains et surtout financiers sont mobilisés, il semble que la conservation fonctionne. En France hexagonale, les populations d'espèces protégées ont augmenté de 120% en moyenne depuis 1990, soit plus d'un doublement. Les plans nationaux d'action, PNA, dispositifs dressant des plans stratégiques pour la sauvegarde d'espèces en danger, lorsqu'ils sont correctement financés et maintenus dans le temps, peuvent, d'après ce rapport, multiplier par 6 les populations concernées. Par exemple, la population de flamants roses en Camargue a été multipliée par 4 depuis les actions de conservation. Celle du pic noir a doublé, plus 124% depuis 2000, comme pour le grand murin depuis les années 90. Quelques actions clés sont pointées telles que la restauration des habitats, la coexistence entre l'homme et le reste du vivant, ainsi que la réduction des pressions directes. Mais même si certains succès restent fragiles, comme pour le loup, le lynx ou le rorqual, dont les populations ne sont pas assez nombreuses ni suffisamment variées pour assurer leur survie à long terme, ces progrès sont encourageants. Un petit détail surprenant que j'ai trouvé dans ce rapport souligne que même les espèces invasives ont joué un rôle parfois positif pour certains oiseaux d'eau, par exemple. En effet, l'abondance accrue de nourriture, avec la présence d'écrevisses de Louisiane, a permis aux hérons et aigrettes, moins exigeants pour la qualité de leur habitat, d'augmenter en nombre.
La forêt semble endormie. Mais il y a des petits cœurs qui battent.
Pour conclure, ce document entend que pour protéger la biodiversité, il est nécessaire de stopper le détricotage des protections, comme le cas du loup, et garantir l'application des lois existantes. mettre en œuvre le plan national de la restauration de la nature prévu par le règlement européen, avec des objectifs très clairs d'ici 2030, réorienter les financements publics. En mobilisant les 37 milliards d'euros de subventions dommageables à l'environnement vers la protection du vivant. Ce rapport rappelle que chacune, chacun a un rôle à jouer pour inverser cette tendance, préserver les haies, encourager une alimentation issue d'une agriculture respectueuse du vivant et soutenir les associations de terrain comme le WWF, France Nature Environnement et bien d'autres. Depuis plusieurs années, ce pays connaît un recul inquiétant de la protection de la nature. Les divers organismes de protection de l'environnement, fondés depuis les années 70, sont fragilisés, tandis que les animaux sauvages ne représentent plus que 4% de la masse des vertébrés terrestres. Pour autant, la connaissance manque en Outre-mer, qui représente bien 80% de la biodiversité française. Il est encore impossible de savoir le niveau de déclin de la biodiversité marine. La question se pose, comment agir concrètement si l'on ne sait même pas ce que l'on perd? Cependant, comme le démontre cette étude, l'appauvrissement du vivant, l'érosion accrue de la biodiversité n'est pas une fatalité, mais bel et bien une question de volonté. La récente loi Duplon, la réduction de la protection du loup et plus récemment la loi Omnibus au Parlement européen, avec un détricotage de la responsabilité des entreprises et la tolérance à la remise sur le marché de biocides divers, indique une tendance qui ne plaide pas en faveur d'une restauration des écosystèmes vivants. La seule dernière opportunité que pointe le rapport pour contrer ces reculs est le plan national restauration de la nature qui doit être présenté par la France début 2026. Très clairement, il est plus que temps d'agir intelligemment en prenant un état de référence antérieur aux grandes perturbations que nous avons pu occasionner avec nos activités ces dernières décennies, industrie, agriculture, urbanisme, afin d'axer une protection à la hauteur du potentiel écologique des territoires. La taille de nos actions a-t-elle tant d'importance que nous en oublions que toute évolution durable, fût-elle modestement à notre échelle, est une occasion de débuter un mouvement positif pour le vivant et nous-mêmes. Est venu le temps de tendre l'oreille. Un récit fantastique où farfadets, lutins et géants se partagent un monde verdoyant, parfois en proie à des hostilités dévastatrices et des compromis. Le petit géant et la grande lutine.
Ce que je vais vous raconter, vous n'allez pas en croire vos oreilles. C'est pourtant la pure et simple vérité. C'est ainsi qu'est né le genre humain. C'était, vous l'imaginez aisément, il y a très, très longtemps. Dans un pays très, très lointain. En fait, rien ne sert de partir à sa recherche, car voilà belle lurette que les océans l'ont recouvert. Ce pays était une vaste plaine que couronnaient deux montagnes, comme les deux bosses du chameau. Sur l'une habitaient les géants. Ils étaient grands, évidemment. Un peu bénés, c'est un fait. Et très forts, cela va de soi. Le sommet qu'ils occupaient était couvert de lourdes pierres avec lesquelles ils construisaient leur palais. Sur la seconde montagne vivaient les lutins. Ils étaient petits, rien de surprenant. Malin, c'est certain, et colérique, vous m'en direz tant. Le sommet était couvert de hauts arbres avec lesquels ils se bâtissaient des gentilhommières, confortables et robustes. Ces géants et ces lutins avaient un point commun. Ils ne pouvaient pas se voir en peinture, alors même que jamais ils ne s'étaient rencontrés. Une haine tenace basée sur des histoires vieilles comme le monde, des rumeurs qui se chuchotaient de siècle en siècle. Et à cause de toutes ces croyances, jamais aucun géant ni aucun lutin n'osait descendre de sa montagne de peur de croiser l'autre. Un jour, ce qui devait arriver quand une haine réciproque est trop pleine dans le cœur de chacun, ce qui devait arriver arriva. Deux pigeons se croisèrent dans le ciel, portant pour l'un un message des géants à destination des lutins, et pour l'autre un message des lutins aux géants. Sur ces deux courriers, les mêmes mots. « Nous vous déclarons la guerre ». Alors, dans un élan de frénésie furieuse, les géants se mirent à creuser et creuser encore, extrayant toutes les pierres possibles afin d'en faire des boulets de catapultes à la rondeur parfaite. Les lutins, pincés par la même folie, rasèrent leurs forêts et rabotèrent encore et encore les arbres morts pour construire des catapultes. Mais les géants n'avaient point de bois pour construire les armes capables d'envoyer bouler leurs boulets sur l'autre sommet. Et les lutins n'avaient point de pierres pour armer leurs catapultes. Ainsi, la guerre s'installa. Sans heurts ni morts, mais chaque jour, on enviait un peu plus l'ennemi d'avoir en abondance ce qu'on avait nullement. Alors, la haine grossit et la frénésie destructrice s'intensifia. Bientôt, tout ne fut que désolation, et dans le cœur des géants et des lutins, on commença à croire à toutes sortes d'inepties et autres prophéties. L'une disait notamment qu'un jour naîtrait chez les géants un enfant qui viendrait à bout de ce conflit larvé. Un autre racontait que viendrait au monde, chez les lutins, un nourrisson qui sauverait leur triste civilisation. Les jours, les mois, puis les années passèrent, quand il y eut, en effet, deux naissances extraordinaires. Naquit un géant qui avait des traits bien différents. Il était tout petit. De l'autre côté, sur le sommet habité par les lutins, une lutine vit le jour. Elle était, quant à elle, très grande. La prophétie, pensaient-ils tous, se réalisait donc. Aussi, couvrit-on ces deux êtres de tous les soins et de tous les honneurs. Chez les géants, on disait l'enfant issu de l'arbre, et chez les lutins, de la pierre. On leur apprit chaque jour de leur jeune vie la haine de l'autre. Et on attendit, dans une impatience fébrile, qu'ils fussent en âge de partir à la conquête de leurs viscéraux ennemis. Le petit géant grandit peu. On pensait que tout en conservant la force incroyable de ses semblables, il avait l'esprit affûté et torve des lutins. La grande lutine, quant à elle, devint immense. On se racontait qu'elle avait l'intelligence des lutins et la force fantastique des géants. Et enfin, un beau matin, sous les cris et hurlements de joie, dans un brouhaha de tambours et de trompettes, le petit géant et la grande lutine descendirent de leurs montagnes respectives. Ils étaient tous deux pantelants, saisis par les tremblements d'une peur terrible. Ils traversèrent les barrières des nues qui entouraient leur sommet. Et dans ces brouillards profonds et épais, ils pensaient à leur mort certaine et inévitable. Car quelles atrocités se cachaient au-delà ! Mais, tandis que les brumes se dissipaient au fur et à mesure qu'ils descendaient, un paysage verdoyant de ruisseaux sonores, d'arbres majestueux et de lourdes pierres se découvrit. Et ils s'émerveillèrent de voir tous les deux, en un seul endroit réunis, pierre et bois. Oh, comme ils leur parurent sinistres leurs pays respectifs ! Toute cette paix leur fit oublier le pourquoi de leur venue dans ces basses terres, et ils ne songeaient même plus à aller à la rencontre l'un de l'autre pour régler leurs différends immémoriaux. Petit géant et grande lutine arpentèrent ce monde et ne se lassèrent pas de sa beauté. Les années passèrent et jamais ils ne se croisèrent. Mais un jour, enfin, le petit géant croisa le chemin de la grande lutine. D'abord, ils eurent un mouvement de recul. Non pas qu'ils fussent hostiles l'un à l'autre, mais parce qu'ils étaient semblables. C'est que, oui, un petit géant est pareil à une grande lutine. Passé la stupeur, ils se saluèrent. Ils se racontèrent ce qu'avait été leur vie et le pourquoi de leur venue dans les vastes vallées du monde. On ne vit nulle haine dans leurs yeux. Une seule chose occupait leurs esprits. La stupeur de se voir pareil. Aussi devinrent-ils amis et ensemble, ils gambadèrent par le vaste monde. Puis, leurs sentiments se transformèrent. Ils devinrent amoureux. Alors se passa ce qu'il devait se passer. Et c'est ainsi que d'un petit géant et d'une grande lutine naquit le premier homme.
et qui nous dit que ce monde lointain si verdoyant, que leurs habitants bipèdes ont mis à sac, est si éloigné de nous. Depuis le 17 décembre dernier, une sortie au cinéma fait sensation. Le Chant des forêts est le dernier film de Vincent Munier. Durant une heure et demie, le spectateur plonge dans la vie des forêts de Vosges et de Norvège. Paysages de neige et de brume rythment les séquences au gré des chants d'oiseaux, des brames de cerfs et des rencontres avec le monde de l'invisible. À l'affût, les trois narrateurs qui ne sont autres que le réalisateur, son père et son fils racontent en toute simplicité l'émerveillement produit par une immersion au plus proche d'une vie sauvage. Sortir de la brume pour écrire une vision crue et pourtant si vraie de notre passage sur Terre. Entre apaisement et grande inspiration, lynx, grand tétras, chouette, sphinx, grand cerf et troglodyte mignon nous invitent par leur simple présence à s'imprégner de ce qui les anime. La forêt, les prairies, les lacs et rivières, les monts et bosquets, la pierre et la mousse.
Restez. Et voir, peut-être.
Tu as pêché où, baobab, acajou ?
Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle feuille de chou, fraîchement cueillie.
Sur au cyprès, peint des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.